Radio Django, la rose des vents.
Bonsoir Samuel.
Bonsoir Fabien.
Dans la rubrique de la rose des vents ce soir à 18h21, tu nous fais découvrir une BD qui s'intitule « Après l'arrivée ». C'est une BD et un reportage également. Elle a été publiée en décembre 2017 par la revue « Vivre ensemble ».
Oui, cette revue entend porter un regard critique sur le droit d'asile et sur le droit des réfugiés en Suisse. Mais c'est une histoire française que raconte la bande dessinée « Après l'arrivée », celle de Fourneau, un petit village des Alpes situé à la frontière avec l'Italie. Fourneau vivait de cette position stratégique, mais après la fin des contrôles douaniers en 1993, le village s'est vidé. Il a perdu 1000 habitants en 20 ans. Aujourd'hui, 660 personnes y vivent et cohabitent avec 33 exilés, hébergés dans une ancienne colonie de vacances. Après l'arrivée, c'est la découverte du village, de ses habitants et des nouveaux arrivants.
Et pour ce reportage, le dessinateur Hergy et la journaliste Julie Eigenmann ont vécu une semaine à Fourneau. Les deux auteurs sont avec nous ce soir. Bienvenue à vous deux sur Radio Django.
Bonsoir.
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 Merci.
Vous êtes parti à Fourneau en juin 2017, 7 mois après l'arrivée des 33 migrants. Pourquoi avoir choisi d'aller en France pour faire ce reportage ?
Alors peut-être pour rebondir sur l'introduction de Samuel Sequet, on peut dire que c'est pas vraiment une histoire française, c'est une histoire qui peut être élargie à beaucoup de contextes d'accueil et de refuge, en l'occurrence pour les exilés. Et du coup, la France, c'était une opportunité de montrer que c'était des expériences humaines, des morceaux de nous un peu, qui en l'occurrence s'exprimaient à Fourneau après le démantèlement de la jungle de Calais, soi-disant jungle de Calais, et que ça, c'était une bonne occasion de parler de ce sujet à travers ce village.
Alors Fourneau, c'est un village où les histoires de frontières se répètent. En 1993, comme on l'a dit tout à l'heure, le village a vu partir ses gardes frontières. En 2016, il voit débarquer des migrants qui ont traversé plein de pays en essayant d'échapper aux gardes frontières. Pour la plupart de ces exilés, ce village de Savoie est une étape sur le chemin. Une étape imposée par l'administration française. Ils y ont été conduits après la destruction de la « jungle » avec des guillemets de Calais à l'automne 2016. Ce reportage après l'arrivée est composé de deux parties. Dans la première, on rencontre des habitants, la boulangère, le maire, des bénévoles qui donnent des cours de français. Et dans la seconde partie, on s'approche plus près des migrants. Ils sont tous des hommes, ils ont moins de 25 ans. Ils vivent dans cette colonie de vacances devenue Centre d'accueil et d'orientation, CAO. Ils s'y ennuient beaucoup. Ils attendent leurs papiers. On rencontre Messaoud qui vient du Soudan. Il dit « Avec les papiers, mon cœur sera libre de penser ». Omar est lui aussi soudanais. Il vient d'obtenir le statut de réfugié. Oussama raconte son calvaire en Libye, la prison, les coups, le canot de sauvetage qui coule en mer et sa femme restée au Soudan. Hassan est afghan, 3 ans qu'il n'a pas vu ses 3 filles et sa fille. Dans cette seconde partie, on s'attarde aussi avec les habitants, le cordonnier, un immigré italien qui pense qu'ils sont 200. En fait, il y en a 33. Il pense que ça va mal finir. Un jeune du village aussi qui se demande pourquoi on devrait les aider. Il dit, on ne saura jamais vraiment qui c'est ces gars-là. Pour votre reportage, vous revenez aussi en août, donc 2 mois plus tard, et vous rencontrez un jeune salarié d'une association locale qui a l'impression d'être devenu un larbin de la politique. Ces deux parties dans la BD, vous les distinguez par des couleurs. Le rouge dans la première domine, et puis ensuite, c'est le bleu dans la seconde partie. Pourquoi avoir choisi ces deux couleurs ?
Je vais laisser à Hergy, le dessinateur, le soin de répondre, puisque c'est quand même à lui que ça revient.
L'art graphique, Hergy.
Alors, on nous pose beaucoup cette question. En réalité, ce n'est pas vraiment un aspect qui était important, ni même significatif, dans le sens où... c'était vraiment un choix esthétique, c'est-à-dire on ne voulait pas rester sur une seule couleur, rouge, et on a voulu passer au bleu, on a voulu changer aussi pour renouveler le regard du lecteur, pour rendre la lecture plus agréable. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu dans ce changement un changement de ton aussi, et ben finalement ça ne peut que apporter quelque chose en plus.
Alors on lit en préambule de la bande dessinée que le plus dur est le premier pas. Vous êtes deux étrangers au village, vous débarquez dans ce village perdu de Savoie. Comment est-ce que vous avez été accueillis par la population ?
Alors la population plutôt bien, on va dire que les gens ont, au début sont un petit peu froids, mais finalement quand on en parle, on réalise qu'ils ont envie de s'exprimer, ils ont des questions aussi, justement on a vu certains préjugés qui sont ressortis, et puis évidemment le plus important pour nous c'était le contact avec les migrants eux-mêmes, et ça forcément c'est compliqué. La première chose c'était simplement la barrière de la langue où ça met du temps. Et puis une certaine implication, une certaine confiance qui doit s'installer pour qu'on puisse vraiment avoir des échanges qui est au-delà des banalités qu'on peut imaginer. Ça, c'est vrai que l'accueil était bon, évidemment très chaleureux, mais la communication moins facile au début que ce qu'on avait sans doute projeté.
J'ajouterais juste qu'avec notre nationalité suisse, les gens étaient beaucoup plus libérés. Certaines personnes ne voulaient pas nous parler jusqu'à qu'on dise qu'on est suisse et que du coup... On n'était pas des journalistes français classiques.
Pourquoi, à votre avis, il y a cette différenciation d'origine ?
Peut-être simplement parce qu'on venait... Je ne pense pas que c'était forcément l'aspect suisse, mais parce qu'on venait d'ailleurs, on était venu pour ça. Il y avait aussi le côté où on montrait qu'on était là pour une démarche d'un peu plus long terme, pas juste passer une heure et puis venir dire « Ah ben voilà, il y a un centre, mais quelque chose d'un peu plus profond. » Et ça, je pense que ça touche les gens, ça leur donne quand même envie de s'investir, de répondre d'une certaine manière.
Un des personnages de la bande dessinée, Hassan, vient d'Afghanistan où il était traducteur. Vous lui demandez comment il se sent ici. Il répond « Je préférais Calais. Il y avait beaucoup d'ONG qui aidaient. On avait un espoir pour la suite. Ici, tout est mensonge. » Est-ce que c'était aussi votre impression en étant à Fourneau que tout était mensonge ?
Non, mensonge, je ne crois pas. Mensonge... C'est un petit peu difficile de répondre parce que lui, son regard à lui, pour lui, c'était un mensonge parce que voilà, il attendait des papiers, il attendait des réponses qui ne venaient pas. Alors qu'à Calais, il voyait une suite, là, il la voyait pas très bien. Pour nous, mensonge, non. Il y a beaucoup de gens qui s'investissent pour que la situation s'améliore, pour que les migrants soient dans de bonnes conditions, etc. Ce qui est vrai, c'est que, comme on le dit à la fin, c'est extrêmement compliqué au niveau administratif. Donc, on a pu comprendre ce sentiment qu'il a de mensonge. Après, c'est un terme un peu trop global et un petit peu trop immédiat. Évidemment que toutes les initiatives et toutes les intentions, on ne peut pas les qualifier de mensonge dans le cas de Fourneau, je ne pense pas. Je ne sais pas si...
Oui, c'est vrai que surtout, finalement, on voit qu'il y a certains efforts qui sont entrepris, mais c'est surtout l'expression, pour la part d'Hassan, d'une attente insupportable. C'est-à-dire qu'on ne sait pas de quoi va être fait l'avenir. Chaque jour, c'est un jour dans l'inconnu et puis une attente qui doit vraiment être difficile, comme ils l'expriment bien tous d'ailleurs. C'est terrible.
On va rentrer peut-être un petit peu plus dans les coulisses de votre travail, Samuel.
Oui, vous mettez en scène dans la BD. On vous voit interviewer le maire, les salariés d'association, les migrants eux-mêmes. On sent que l'enquête a été menée à deux, mais comment avez-vous réalisé la bande dessinée en elle-même ? Êtes-vous partie du texte, des images ? Comment avez-vous travaillé cette création à quatre mains ?
on est vraiment parti du texte, c'est-à-dire qu'on a d'abord réalisé les interviews sur place, et rencontrer les gens, et d'ailleurs aussi pris des photos pour ensuite le travail graphique. C'est vrai qu'on a sélectionné d'abord les passages qui nous semblaient essentiels à la bande dessinée, et ensuite ça a été traduit en bande dessinée. Mmh.
Et ce texte, vous avez travaillé, vous l'avez élaboré tous les deux ?
Oui, les deux ensemble. Sur le terrain, c'était vraiment ensemble qu'on a mené les interviews, fait différentes observations, etc., en faisant régulièrement des points, des bilans sur ce qu'on venait de voir et d'entendre. Et ensuite, le texte, on l'a élaboré ensemble. Et puis, évidemment, pour la partie dessin.
Ergy tout seul.
Voilà.
Et donc, Ergy, sur place, vous avez évoqué des photos. Vous dessinez aussi des croquis ou vous travaillez uniquement sur la base des photos que vous prenez pendant le reportage ?
Alors, il y a eu quelques croquis sur place. Évidemment, avec la photo, on a pu en faire quelques centaines. Il y avait aussi des prises de notes, simplement pour saisir des ambiances, saisir des attitudes qui des fois vraiment étaient particulières et qu'il fallait décrire. Donc c'est vrai qu'on a surtout utilisé la photo pour ça.
Oui, puis on voit d'ailleurs des environnements qui sont très marqués, par exemple le bureau du maire qui est assez épuré avec juste une petite plante verte sur une étagère, et puis quand on est dans le bureau de l'association, il y a des post-it partout, on sent que l'environnement est très marqué comme ça. Pour faire un reportage, on peut partir un peu en freestyle, sans contact, et puis laisser les rencontres se faire une fois sur place. Ça implique d'avoir un peu plus de temps devant soi en général. Si on est pressé, on peut aussi prendre des contacts en amont, et puis quand on arrive sur place, toutes les rencontres sont déjà prévues et agendées. Vous avez procédé comment pour ce reportage ?
Disons que pour ce qui était du maire et puis du centre lui-même, on a pris les contacts à l'avance parce que voilà, c'était important pour nous de savoir ce qu'on allait, comment on allait pouvoir s'organiser. On n'avait pas tant que ça sur place.
Vous aviez une semaine, hein, c'est ça ?
Un peu moins. La première fois, on est resté 4 jours.
4 jours.
Et puis, on est revenu une deuxième fois. Donc, on a vraiment, voilà, on a pris des contacts avant. Mais c'était la part d'improvisation qui est de toute façon toujours présente dans le reportage. C'était vraiment que ben voilà, le rendez-vous avec le maire était assez clair. Mais pour le reste, les intervenants, que ce soit les personnes qui travaillent au centre ou les migrants, etc., évidemment, ça, on n'avait pas du tout prévu dans quel ordre, comment, quoi, ça se ferait. Donc, cette partie-là était beaucoup plus improvisée, mais on avait annoncé au centre qu'on venait. Parce que voilà, sinon, ce n'est pas possible d'arriver juste comme ça, évidemment, si on a des mois devant soi. Mais, voilà. Mais là, ce n'était pas possible d'arriver, d'être sûr qu'on nous reçoive. Donc, c'était prévu, mais disons pas organisé.
Et vous viviez dans le village, vous aviez un point de chute
dans le village.
Alors, Erji, vous êtes dessinateur. Voici ce que vous dites de vous-même. Erji, c'est un mec avec un crayon, une gomme, entre parenthèses, il se trompe parfois, une plume et beaucoup d'envie de planter sa mine là où ça fait mal. Aujourd'hui, Erji, où est-ce que ça fait mal ?
Aujourd'hui, dans l'actualité ou...
Pour vous ?
Ben, y a énormément de sujets qui peuvent faire mal et qui sont que j'adore dessiner justement pour provoquer cette piqûre. Mais moi, cette thématique autour de l'accueil des réfugiés, j'ai entendu avant parler de la crise migratoire. On peut aussi parler de la crise de l'accueil parce que c'est, en l'occurrence, ça a été ça le problème selon moi, c'est que cette fois, on a refusé, les pays européens ont refusé d'accueillir, comme ils le faisaient avant en tout cas. Oui, ben évidemment, il y a énormément de... Moi, les sujets politiques chauds sont toujours... à la base, je suis dessinateur de presse, donc je suis multi-intéressé.
Et sur cette thématique de l'exil en particulier, il y a eu un déclic, un événement particulier qui vous a fait vous pencher plus particulièrement sur ce sujet ?
Oui, alors en fait, je travaille avec la revue Vivre Ensemble pour laquelle je dessine, donc... depuis 2013, et il se trouve que pendant cet été 2015 où il y a eu toutes ces arrivées par bateau, c'est d'ailleurs à la base de ce projet de BD reportage, c'est qu'on entendait beaucoup de bêtises, beaucoup d'informations à l'emporte-pièce, je dirais. Et il y a vraiment eu une envie de remettre les choses à plat, et ça, avec cette bande dessinée, ça a été l'occasion de parler de faits, de choses vraies qu'on voit et qui sont tangibles. Et c'est important de donner une dimension humaine à ces choses-là.
Ah, Julia Engelmann, vous êtes journaliste. Qu'est-ce qui vous intéressait dans cette enquête sur ce village de Fourneau ?
Là, justement, je dirais qu'on a lu beaucoup de choses après le démantèlement de la jungle de Calais. Sur le démantèlement lui-même, aussi parfois juste sur l'arrivée où voilà, hop, on savait que tel village avait accueilli tant de migrants. Mais finalement, on avait l'impression, il y a eu beaucoup de reportages photos aussi, mais qu'il y avait peut-être un peu moins eu de regard sur l'après et des mois après. Qu'est-ce qui se passe, comment ça évolue, pas juste l'arrivée où à la limite l'arrivée se passe très bien.
Mais c'est le principe systématiquement, quand il se passe un événement on en parle,
voilà,
tout de suite,
ça.
On oublie.
C'est ça, c'est le côté journalistique et voilà, et là c'était l'idée de se dire ben voilà, c'est sur le plus long terme, c'est peut-être pas, il n'y a peut-être pas d'événement précis, c'est nous qui le créons et je crois que c'est ça qui m'a emballée et qu'on était contents de pouvoir faire, c'était d'y aller après et puis de voir comment ça se passe vraiment.
Alors durant cette semaine, ces 4 jours d'immersion, puis ce retour 2 mois plus tard, on imagine que vous avez créé des liens avec ces migrants, avec ces habitants. Est-ce que vous avez gardé le contact par la suite ?
Oui, mais...
Ça a été assez compliqué avec les... Moi, j'ai envie de résumer ça par les autorités, c'est-à-dire qu'on a voulu faire par exemple un vernissage exprès pour le centre et exprès pour le village de Fourneau.
De votre bande dessinée donc ?
Oui, oui. Et ça ne s'est pas passé comme on pensait. Et du coup, on a eu un petit manque peut-être.
Il faut juste dire que ce n'était pas négatif. C'est vraiment une question de... Enfin, pas une mauvaise volonté. Il y avait mal de volonté de le faire. Mais c'est très compliqué. On l'a compris dans ces milieux associatifs, comme on voit à la fin Germain qui s'en va. Et là, en fait, l'équipe a à peu près complètement changé. entre le moment où on y allait et puis le moment où on a voulu justement peut-être y revenir faire un vernissage. Donc on a beaucoup échangé au vernissage à Genève. Il y a des gens qui sont venus, malheureusement pas de migrants. C'était pas possible, mais il y a des gens qui sont venus. Donc il y a eu un échange, mais c'est vrai qu'on n'a pas pu mener jusqu'au bout.
Donc au final, il n'y a pas eu de vernissage à Fourneau. Et vous savez un an plus tard ce qui se passe là-bas ?
On a su, mais là, comme ça fait encore un an...
Alors actuellement non, mais on sait qu'on a su que énormément des gens qu'on avait rencontrés sur place avaient été changés, ont été déplacés en fonction de l'avancement de leur procédure. Mm-hmm. Et ben c'est vrai que c'est compliqué de garder contact avec eux parce que ils se déplacent, ils sont mobiles, c'est compliqué.
Beaucoup de circulation, ouais, ça on a su tant les migrants que le personnel
des associations.
Voilà. Ouais.
Cette bande dessinée donc, que j'ai entre les mains ici, une belle bande dessinée avec du texte, des bulles, des images, des représentations de vous, comme on l'a dit tout à l'heure, des situations, des mises en scène qu'on vous recommande et qu'on vous encourage à lire et à prendre connaissance, que ce soit pour vous, pour votre culte général ou pour le geste de la découverte donc, de ces événements et de ces migrants à Fourneau. Comment est-ce qu'on peut se procurer votre bande dessinée ?
Il suffit d'envoyer un mail à la revue Vivre Ensemble. Vous pouvez aller sur leur site internet asile.ch et commander la bande dessinée par courrier postal qui vous sera envoyé à la maison.
Il y a aussi certaines librairies à Genève qui en vendent. On encourage si à Lausanne ça intéresse des librairies aussi, pourquoi pas. Mais bon, c'est pas en grand nombre, donc c'est peut-être mieux de passer par le site.
Directement donc asile.ch, la revue qui est publiée par Vivre Ensemble. On vous met les liens évidemment sur notre site django.fm. Merci beaucoup Hergy, merci également à vous Julie Eigenmann.
Merci.
Une bonne soirée, bravo pour votre travail. Merci d'être venu ce soir sur Radio Django nous parler de votre bande dessinée Après l'arrivée. Encore une fois, on va mettre tous les liens sur notre site. Merci beaucoup à Samuel pour la préparation de ce sujet. À tout bientôt.
À bientôt.
Une rencontre et une émission à retrouver sur notre site django.fm. Samuel, on se quitte avec un choix musical.
Oui, le choix musical de nos invités, c'est une chanson de Georges Brassens, La balade des gens qui sont nés quelque part.
Eh bien, ça tombe bien, c'est tout à fait d'actualité. Georges Brassens sur Radio Django.
C'est vrai qu'ils sont plaisants. Tous ces petits villages, tous ces bourgs, ces hameaux, ces lieux-dits, ces cités, avec leurs châteaux forts, leurs églises, leurs plages, ils n'ont qu'un seul point faible, et c'est d'être habité. Et c'est d'être habité par des gens qui regardent le reste avec mépris du haut de leur rempart. La race des chauvins, des porteurs de cocardes, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Maudits soient ces enfants de leur mère patrie, empalés une fois pour toutes sur leur clocher qui vous montre leur tour, leur musée, leur mairie. Vous font voir du pays natal jusqu'à Loucher, qu'ils sortent de Paris ou de Rome ou de Sète ou du diable Vauvert ou bien de Zanzibar ou même de mon cul, ils s'en flattent mazette, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Le sable dans lequel douillettent leurs autruches, enfouissent la tête, on trouve pas plus fin. Quant à l'air qu'ils emploient pour gonfler leurs baudruches, leurs bulles de savon, c'est du souffle divin. Et petit à petit, les voilà qui se montent le cou jusqu'à penser que le crottin fait part. Leurs chevaux, même en bois, rend jaloux tout le monde. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. C'est pas un lieu commun, celui de leur naissance. Ils plaignent de tout cœur les pauvres malchanceux, les petits maladroits qui n'eurent pas la présence, la présence d'esprit de voir le jour chez eux. Quand sonne le tocsin sur leur bonheur précaire, contre les étrangers tous plus ou moins barbares, ils sortent de leur trou pour mourir à la guerre, les imbéciles heureux qui
qui sont nés quelque part. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Mon Dieu, qu'il ferait bon sur la terre des hommes si l'on y rencontrait cette race incongrue, cette race importune et qui partout foisonne la race des gens du terroir, des gens du cru. Que la vie se révèle en toutes circonstances si vous n'aviez tiré du néant ces jobards. Preuve peut-être bien de votre inexistence, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part.
Georges Brassens chantait cette chanson 1972 sur Radio Django, 18h42 aussi, ça se réinvente pas. On passe à la culture ce soir.